On accueille Perrine maintenant au 39-21. Bonsoir Perrine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Perrine. Alors, je signale à nos auditrices et à nos auditeurs qu'il y a un léger décalage, car je vous appelle, on vous appelle, vous êtes au Canada, Perrine.
Exactement, j'appelle du Canada. Il est beaucoup plus tôt ici, 17h14 pour être précise, donc il fait encore jour.
D'accord, et c'est l'été là-bas, hein?
Oui, il fait très très chaud au mois d'août, oui.
Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Alors, je sais que vous étiez à Paris cet été, donc vous avez pu profiter du mauvais temps que nous avons eu cet été à Paris. Je vais récapituler un peu la teneur de notre première discussion, Perrine, puisque vous nous avez appelé à, je crois me souvenir que c'était début mai, ou en tout cas aux alentours de avril-mai, et que
vous nous aviez... même juin, je crois.
Juin.
Oui,
et vous nous aviez donc expliqué avoir... retrouver 15 ans plus tard un amour, en tout cas quelqu'un avec qui vous aviez vécu quelque chose d'important, de passionné. Vous nous avez fait part de votre situation de maman, mariée et plutôt heureuse dans son couple, même si le couple ronronnait, puisque cela faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Que vous êtes ensemble d'ailleurs, car vous êtes toujours ensemble.
10 ans.
Et vous nous avez donc évoqué la surprise de retrouver cet ex avec lequel vous avez échangé. Et puis, voilà, il y a eu une étincelle, un feu follet qui est né à nouveau, je dirais. Et puis, on sait, on l'avait évoqué ensemble à l'époque, on sait combien ce type d'échange à un moment qui se fait un peu dans la séduction, hein, progressivement, vous a un peu bouleversé et vous envisagez de venir cet été à Paris. Je crois me rappeler que dans un premier temps, vous arriviez seul ou avec vos enfants et que votre mari devait vous rejoindre plus tard et que vous envisagiez donc de revoir cet ex pour avoir le cœur net de ses sentiments naissant, renaissant, je dirais, qui vous bouleversait quand même, qui vous interpellait jusqu'à vous poser des questions sur votre vie de femme, de votre vie là-bas au Canada et sur la nature de cette relation. Alors, je vais vous écouter. Êtes-vous allé au final à Paris cet été, puisque ce qui vous avait empêché d'aller en France voir vos parents, je crois que c'était le Covid, hein, puisqu'au Canada, vous avez été longtemps interdit de sortir du territoire. Est-ce que vous êtes venu à Paris cet été ?
Oui, je suis venue à Paris cet été, je suis restée 3 semaines. Oui.
D'accord. Alors, racontez-moi comment tout ça s'est passé.
Tout d'abord, merci encore une fois de m'accueillir à votre antenne. C'est très, très compliqué. J'ai essayé moi-même, en fait, de coucher tout ça sur le papier parce que j'ai besoin de m'expliquer, en fait, tout ce déroulement-là. Si je devais résumer, Olivier, je vous dirais tout d'abord que j'ai l'impression de revenir de l'enfer, c'est-à-dire un enfer sentimental et psychologique, quelque chose que je n'avais jamais vécu avant. Donc effectivement, j'ai retrouvé cet ex. C'était parti vraiment au début d'échanges, on va dire, cordiaux. C'était même pas amical, vraiment. C'était cordial, puis amical. Effectivement, il y a eu un glissement comme ça progressif. Et je pense que cette personne avait aussi un talent particulier pour m'amener sur ce terrain-là.
On avait évoqué, puis, d'ailleurs, à l'époque, Perrine, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on avait évoqué ce côté de jeu dangereux. Hein, puisque ces échanges, ces SMS, ces petits textes envoyés furtivement comme ça font naître, à travers l'interdit, font naître quelque chose de piquant. Hein, ça vous a émoustillé quand même assez vite.
Oui, bien sûr, complètement. Je ne peux pas le nier. Mais du coup, la tentation était trop forte, bien sûr. Il fallait que je le voie. Et puis, c'était une bonne coïncidence finalement parce que du point de vue du Covid, j'avais réussi à obtenir mes vaccins. Tout était en règle. Donc, pour moi, c'était l'occasion rêvée justement de venir en France et d'avoir le cœur net et de vérifier ce qu'il en était de cette situation. Je l'ai revue. Je pense que je suis restée 3 semaines à Paris, enfin en région parisienne, et je l'ai vue cinq fois en 3 semaines, ce qui est quand même assez intense.
Comment ça s'est passé le premier rendez-vous, j'aimerais savoir, avant que vous me disiez le reste.
Le premier rendez-vous, j'avais l'impression d'avoir 20 ans à nouveau. Il est venu me récupérer à la gare et je pense que lui aussi, il y avait vraiment une espèce d'excitation, d'adolescent, un truc impensable. On s'est juste promenés, on a déjeuné ensemble, on a passé vraiment une super journée. Rien de très très, je dirais, il n'y avait pas vraiment de rapprochement ni rien, mais c'était vraiment, on a passé une super journée comme des amis. Et à partir de là, ça a glissé de plus en plus.
Qu'entendez-vous par glisser ?
On a consommé la relation. Donc, déjà, c'est arrivé assez rapidement, en fait. C'est comme si... parce qu'il faut dire aussi qu'il y a 15 ans, on s'était quitté un peu sur une fâcherie. On ne se comprenait plus. Et c'est moi qui suis partie. C'est comme si j'avais besoin de boucler la boucle. Il y avait un truc là, il y avait quelque chose à finaliser. C'était ça. Je me suis rapidement laissée tenter. Et je reconnais que c'est une grosse, grosse erreur de ma part, une grosse erreur de jugement. Mais ça s'est fait, donc je peux pas revenir en arrière ou effacer ça. Je l'ai revu et le courant passait bien, trop bien, trop trop bien. C'était vraiment irréel. C'était vraiment ça. Et lui aussi a senti ça. Et à partir de là, en fait, chez moi, malheureusement, ça a déclenché une espèce de, on va dire, de dépendance affective. Comme vous l'avez si bien expliqué, oui, je suis en couple, je suis mariée. Oui, a priori, c'est un mariage heureux. J'ai choisi mon conjoint et on a vécu ensemble. On s'est connus pendant suffisamment longtemps avant de décider de se marier. Donc, c'était pas une décision à la légère. Et voilà. Mais effectivement, j'étais arrivée à un moment où j'étais pas comblée émotionnellement parlant. Je parle pas de l'intimité, mais vraiment juste du point de vue des émotions. J'étais plus une femme, j'étais juste une maman, une épouse, une cuisinière. J'arrivais plus à garder un rôle de femme. Et je vous ai dit aussi que ça correspondait à une période à ce moment-là, quand j'ai commencé à reparler à mon ex. C'était une période où justement, je me suis dit, maintenant, ça suffit, je vais faire attention à moi, je vais prendre soin de moi. Donc, j'ai commencé à refaire du sport, à faire attention à moi, etc. Et finalement, le regard ou les paroles encourageantes que je ne trouvais plus chez mon mari, je les ai trouvées de l'autre côté. Et donc, forcément, c'était un engrenage. À partir de là, c'était fichu. C'était parti. Je n'avais plus à rattraper les choses. J'avais essayé plusieurs fois de rompre, mais ça ne marchait pas.
Est-ce que vous avez saisi depuis qu'il avait, le beau rôle, cet homme, que vous avez revu cet été ? Parce que, quoi qu'il arrive, bien évidemment qu'il faut être attentif, car le couple, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose... D'abord, je considère que déjà, mener sa propre barque, c'est quelque chose de difficile. Il faut savoir se renouveler soi-même, se créer des centres d'intérêt. Et ensuite, quand on est à deux, et puis ensuite à trois ou quatre, parce qu'il y a les enfants qui viennent, il faut que tout ça soit cohérent. Et c'est compliqué, la vie de famille, la vie de couple... pouvoir continuer à s'aimer parce que c'est assez c'est assez cruel de voir combien l'amour se transforme, et si on ne comprend pas si on n'y fait pas attention, cet amour qui évolue, qui se transforme, parce que il n'est jamais aussi intense et surtout pareil qu'au début, l'amour au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on connaît plus le corps de l'autre, on connaît plus sa manière de réagir, on connaît plus...
Il y a moins de surprises.
Mais si on considère que qu'on fait attention et qu'il faut surtout essayer de faire attention à ce couple et justement de se renouveler, ce qui est le plus compliqué. Hein, parce que parfois, vous parliez de votre mari à l'époque, qui ronronnait vraiment, oui. Hein, qui était un peu le moteur à l'époque de ce côté ronronnant du couple, parce que vous me décriviez un mari qui ne se posait pas beaucoup de questions et qui était rentré dans une sorte de mécanisme, hein, et de schéma de vie un peu répétitif et qui semblait s'en contenter. Après, il y a pas mal d'hommes qui sont comme ça. C'est plus la nature des hommes un moment. Bah, si ça va, ça roule. Bon, et ben on va rester comme ça, puisque voilà, c'est pas trop mal comme ça. Alors que les femmes ont plus tendance à se remettre en question. Et c'est bien d'ailleurs, parce qu'elles sont souvent celles qui déclenchent la remise en question. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont toujours en tête des actions qui vont sauver le couple, parce que il y a aussi beaucoup d'hommes qui, quand on les booste, eh bien, se mettent vraiment à démarrer, et on peut être étonné de la manière dont ils démarrent et dont ils vont se mettre en route pour sauver ce couple et faire tout pour qu'ils ne ronronnent plus. Mais donc les questions que vous vous posiez étaient tout à fait légitimes à l'époque. C'est ce que je veux vous dire.
Oui, vraiment.
Après, bien évidemment, cet homme, il avait le beau rôle, parce que lui, il n'avait rien à assumer dans ce schéma-là. Il n'avait qu'à être le prince charmant qui venait vous chercher à la gare et qui avait pour mission de vous faire rire et puis d'être tendre avec vous. Et puis voilà, c'est ce qui s'est donc passé, en gros.
C'est exactement ça. Et en fait, pour aller dans le même sens, je peux même vous dire, Olivier, une des choses en fait qui m'ont impressionnée chez cette personne-là, chez mon ex, c'est que 15 ans après, et après avoir connu une tonne d'autres femmes dans sa vie, il était capable de me ressortir des choses de ma vie, de mes goûts de l'époque. Et vraiment, je peux vous dire, ça m'a scotché. Ça m'a scotché parce que justement, de l'autre côté, mon mari ne se souvenait même pas ce qu'on avait mangé la veille au soir. Donc, ce type qui me raconte, mais et ton café, tu l'aimes toujours comme ça, et tu aimes toujours le théâtre, et ton film préféré, c'était ça. Et ça paraissait magique et irréel. Et enfin, vous savez, quand même, les femmes, malheureusement, on recherche un peu ce côté qu'on décrit.
Bien sûr.
Même avec les années qui passent, c'est impossible, on n'arrive pas. Voilà. Moi, en tout cas, j'essaye enfin de me rentrer ça dans le crâne que non, les contes de fées n'existent pas. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et puis, forcément, du côté de mon mari, cette relation qui était essoufflée, juste d'entendre ça de l'autre côté, c'était. C'était vivifiant, c'était juste ça, c'était vivifiant. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce n'était pas dû au hasard, ces histoires de... Le fait qu'il retrouve, qu'il se remémore de choses que j'aimais à l'époque. En fait, il gardait un document Excel sur toutes ses copines. En fait, il écrivait tout. Il a des notes sur tout.
Oui.
Et en fait, c'est ça qui me ressortait. Mais oui, mais oui.
Mais comment vous vous êtes aperçu de ça, en fait ?
Ben, en fait, il m'en a parlé au détour d'une conversation.
Ah oui, d'accord.
Il m'en a parlé. Oui, il m'en a parlé. Et voilà, et je lui ai juste dit, mais je serais curieuse de voir ce document-là. Je voudrais savoir ce que tu as écrit à mon sujet. Il m'a dit, mais non, mais c'est rien du tout, il n'y a rien à voir, c'est juste deux, trois trucs.
Non,
je pense que le connaissant, ce n'est pas deux, trois trucs.
C'est tout de même très étonnant de prendre des notes sur ses amours. C'est quand même un drôle de réflexe. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, Perrine, et vous restez avec moi et on se retrouve dans quelques instants. D'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Nous sommes avec Perrine qui nous appelle du Canada. Nous écoutons Perrine nous raconter ce retour aux sources de l'adolescence, ou en tout cas d'amour de jeune adulte, hein, Perrine, puisque vous aviez rencontré cet homme. À quel âge vous l'aviez rencontré d'ailleurs ? 18 ans, 20 ans ?
21 ans, et lui en avait 26 ou 27, je crois.
D'accord.
26.
Alors, vous étiez en train de me dire qu'il... Il tenait une espèce de fichier avec des remarques, des écritures sur chacune de ses conquêtes. C'est curieux, en fait. Ça, Ça vous a... Qu'est-ce que ça vous a fait quand il vous a parlé de ça?
Bah, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, en fait. Mais c'était au détour d'une conversation. Donc, c'est arrivé de telle manière que... Oui, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai pas... J'ai laissé passer, on va dire. Et ça correspondait vraiment à un moment, Olivier, où j'étais de plus en plus, on va dire,
amoureuse.
Dépendante, oui. Affective. Je ne sais même pas si c'était de l'amour, c'est ça le pire, je ne crois pas. Mais c'était vraiment, il y avait une dépendance affective.
En tout cas, ça y ressemble. Ça y ressemble.
Voilà.
Si on vous avait posé la question là, sur le fait, vous auriez sans doute parlé de l'amour. C'est ce qui s'en rapprochait le plus, même si il a créé une dépendance très rapidement, cet homme. C'était tout de même un sentiment fort. Que vous ressentiez.
Oui, absolument, oui. Et donc c'est ça. J'ai compris qu'il prenait des notes. Et c'est comme un ballon qu'on gonfle progressivement. Donc il commençait à insuffler de plus en plus d'idées comme ça. Et il est arrivé à un point pratiquement à me convaincre de tout quitter et de rejoindre en France. C'est-à-dire de quitter mon mari.
Oui.
Après, bien entendu, il ne me disait pas ouvertement de quitter mes enfants. C'est trop brutal. On ne peut pas dire ça à une maman. Mais en gros, bah, c'est faisons notre vie à deux. Donc forcément, à deux, ce serait lui et moi. Il n'y aurait pas mes enfants.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'était plus détourné. Ensuite, il me racontait qu'en fait, il est propriétaire d'un appartement en région parisienne qu'il n'utilise pas. Donc, on pourrait vivre là. Et tout ça, c'est insinué. Hein. C'est pas très, très clair comme ça, mais c'est vraiment... c'est glissé dans des conversations.
Oui. Vous m'aviez décrit cet homme comme étant un peu un Tanguy. Vous vous rappelez ? Vous m'aviez dit qu'il vivait encore chez ses parents. Vous aviez évoqué le fait qu'il était bien né et qu'il avait un appartement à Paris. En tout cas, vous aviez évoqué ça dans notre première conversation. Mais il était toujours chez ses parents quand vous l'avez vu ?
Oui, toujours chez ses parents et c'est pas prêt de s'arrêter parce que d'après ce que j'ai compris, il aime pas tout ce qui est tâches domestiques, etc. Donc il veut pas avoir à s'occuper, à entretenir un appartement, un espace de vie. Donc vraiment, toutes les tâches reposent sur sa mère. Et il a cet appartement de l'autre côté qu'il n'utilise pas, qui est un appartement qui a été absolument rénové et qui est complètement habitable, mais il ne l'occupe pas. Il ne le met pas non plus en location, il n'essaie pas d'en tirer un profit, c'est juste que c'est un truc qui reste là et qui est inutile. Donc il m'a insinué ça. Pour vous dire jusqu'à quel point c'est allé, il a même dit qu'il voulait m'épouser, et pourtant je suis déjà mariée, il le sait bien. Il ne parle pas de divorce, hein. Il ne me parle pas de me séparer clairement comme ça, mais bon, il me dit qu'il veut m'épouser, qu'il veut me faire des enfants. À un moment, il a commencé à me faire des espèces de petites crises de jalousie par rapport à mon mari. Donc forcément que je vis encore avec mon mari et donc il y a l'éventualité que j'ai des relations intimes avec mon mari, donc que ça ne lui plaît pas. Voilà, on a été arrivés à ce point-là. Et ces petites crises-là, ces revirements de situation, c'est arrivé. Surtout, ça s'est intensifié quand je suis rentrée au Canada.
D'accord, donc, parce que votre mari vous a-t-il rejoint avec les enfants comme c'était prévu ou d'accord.
Mon mari m'a rejoint et ça m'a permis de faire une petite coupure, un moment de faire justement des activités de sortie familiale. Mm-hmm. Mais je ne peux pas nier, forcément, il y avait toujours... j'étais dans l'attente de recevoir des messages. Ça ne s'est pas arrêté, malheureusement.
Votre mari n'a pas du tout senti qu'il y avait quelque chose de changé chez vous ? Il n'a rien remarqué ?
Sans doute, mais en tout cas, j'ai une sœur qui s'en est rendue compte que j'étais différente, c'est ce qu'elle m'a dit, mais pas plus que ça. Mais non, mon mari a juste... Il savait déjà qu'il y avait on avait un petit éloignement, de toute façon, on avait dit ce voyage séparément comme ça en France, c'était aussi une façon pour moi de
faire un petit break,
prendre un peu d'air, un peu d'espace. Voilà, prendre un break, mais non officiel, c'est pas une séparation, mais juste de se dire que... Voilà, je vais en voyage séparément, je vais réfléchir de mon côté. Mais le problème, c'est que là où je vais en voyage, il y a d'autres personnes.
Oui.
Donc, c'était pas très, très judicieux de ma part, mais c'était ça. Donc, mon mari n'a pas vraiment réalisé, en tout cas pas tout de suite. Et quand j'ai quitté la France, je suis partie. Donc là, c'était encore la phase vraiment positive. Là, c'était le ballon gonflé à bloc. Voilà. J'ai fait une connerie en me mariant avec telle personne. J'aurais dû persister il y a 15 ans. Je suis partie trop vite. Vraiment, j'étais dans un espèce de délire. Je me suis
montée
la tête pour rien.
Non, ça devait être difficile pour vous, Perrine.
C'était très dur. C'était très dur. Et lui-même m'a dit, oh bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, si tu t'étais pas mariée, bah, tu n'aurais pas eu tes enfants. Donc, bah, au moins, voilà, c'est bien. Mais après, par rapport au mariage et rester mariée en tant que telle, il m'a dit, bah, c'est pas grave, tout le monde fait des conneries. Il m'a dit ça. Tout le monde fait des conneries dans sa vie. D'accord. Et là, retour au Canada. Et donc, c'est là que vraiment, je pense, avec l'éloignement physique. D'ailleurs, il ne m'a pas réécrit tout de suite. Il y avait un truc, voilà, ça bloquait, enfin voilà, il ne me réécrivait pas tout de suite. Et c'est là qu'en fait, il a commencé à adopter un discours un peu plus ferme et plus négatif, les crises de jalousie. Et là, il a commencé à souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de bah, « on va se marier, on va faire des enfants, blablabla ». Et deux jours après, ça pouvait être « mais non, mais t'as rien compris, mais c'est toi qui interprètes mal, mais j'ai jamais dit ça, pas du tout, tu délires ». Donc, c'était incompréhensible, j'étais vraiment perdue. Et de l'autre côté, bah, comme je vous ai dit, la relation avait été consommée. Donc moi, bien entendu, comme toute personne qui fait un truc pareil, bah, je commence à avoir des scrupules.
Oui.
Parce que malgré tout, mon mari n'est pas une mauvaise personne. C'est juste que, voilà, on a été... on a été empêtrés dans une sorte de routine avec la pandémie, le confinement et les enfants, etc. Donc, on s'est perdu en fait, on s'est éloigné l'un de l'autre.
De toute façon, voilà, cette période a été très compliquée pour tout le monde, y compris pour les enfants
Et
donc pour les familles. Ils ont quitté famille à ramasser hein, pendant cette période du Covid parce que tout le monde a eu du mal, les enfants. Aussi, et donc l'entité famille, bien évidemment, avait du mal à s'élever, parce que en étant coincé comme on l'était, c'est sûr que, de toute façon, je crois qu'il y a beaucoup de couples et beaucoup de familles qui ont explosé hein, pendant cette période.
Oui, c'est ce que j'ai vu. Je travaille dans un secteur d'activité où je collabore avec des services sociaux, en fait, et on m'a rapporté beaucoup d'histoires comme ça, malheureusement.
Ouais, ben
donc,
ouais.
même ici, même au Canada, même avec un contexte différent, une économie un peu plus dynamique, bah, ça ne change pas. Il y a eu aussi des couples qui ont implosé ici. Donc, je me suis retrouvée là avec cette confrontation en fait, quasi quotidienne, puisque du coup, c'était un moment où on s'écrivait pratiquement tous les jours. Et là, j'en pouvais plus, Olivier. Vraiment, je pense que ce qui m'a sauvée, parce que la fin est positive, que je rassure tout le monde, la fin est positive, mais je pense que ce qui m'a sauvée dans tout ça, c'est, je ne sais pas, j'ai eu une espèce de... une prise de conscience, un instant de survie, un truc à la dernière minute qui me dit mais t'es en train de tout ficher en l'air. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage à deux mains.
J'aimerais que, avant que vous me disiez, que vous me racontiez quand vous avez pris votre courage à deux mains, j'aimerais savoir, pour toutes les femmes qui vous écoutent et dont le couple ronronne et qui peuvent être tentées ou qui ont peut-être passé le pas, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui vous a amené à reprendre conscience et à reprendre les choses en main et à arriver à vous remettre sur vos rails, à vous. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est l'attitude de cet homme? Ou c'est une prise de conscience de votre part? Ou vos enfants? Ou qu'est-ce qui a...
Son attitude, vraiment ses propos, le fait qu'en fait il m'a fait miroiter des choses et que là en fait il faisait marche arrière, c'était ça. Là j'ai vraiment compris que c'était quelqu'un d'inconstant. En fait, c'est ça. Parce que c'est bizarre à dire, mais en fait, ce qui m'a sauvée, justement, c'est sa personnalité à lui. Parce que si c'était un amant qui vraiment était constant et me disait, mais quitte tout, je t'emmène, prends tes enfants. Je pense que au plus fort là, de ce délire, j'aurais pu le suivre, je pense. Parce qu'en fait, j'ai pas de... je suis vraiment quelqu'un qui, si j'ai l'impression que je vais trouver mieux ailleurs, je dis bien une impression, je suis capable de partir. C'est ça le problème. Mm-hmm. Moi, j'ai pas peur. J'aime pas m'enliser dans une routine, en fait. Mm-hmm. Vous parliez de, il y a plus de nouveautés dans le couple, il faut se renouveler. C'est vraiment ça. C'est que moi, j'ai peur de ça. J'ai toujours besoin de quelque chose de nouveau. Et il m'offrait ça sur un plateau, en fait, en apparence.
En apparence, oui.
Donc, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est son attitude à lui. Le fait qu'il fasse un pas en avant, trois pas en arrière, ça m'a vraiment sauvée. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça.
Ça vous a projeté dans ce que pouvait être la vie avec lui plus tard
Voilà. Mm-hmm. Oui. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et en réalité, ça m'a ouvert les yeux. Et là, j'ai compris qu'en fait, il était absolument bourré de défauts. Mais vraiment, le côté tanguy est revenu, des tas d'autres choses, et certains détails personnels dont je ne peux pas parler ici, mais des choses qui m'ont mis vraiment sur la voie. Je me suis dit, mais non, en fait, regarde, compare par rapport à ton mari, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, etc. Ouais, et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert les yeux. Et c'est là, en fait, je me suis dit, c'est pas vrai, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est une illusion. L'illusion est très très forte, mais c'est vraiment pas la réalité. Donc ça m'a donné un coup de fouet.
L'herbe repousse verte partout. C'est plus ça en fait. Mm-hmm. Elle est la même partout. C'est plus ça en fait la réalité. Elle est pas plus verte ailleurs. On pense qu'elle est plus verte ailleurs quand on regarde. Elle a peut-être une allure. C'est mm-hmm. le propre d'être dans une routine et de regarder et de fantasmer un peu l'extérieur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est dans quelque chose qui nous ennuie, qui nous blesse ou qui ne nous rend pas très heureux, on se met, mm-hmm. c'est le propre de l'homme de fantasmer sur autre chose, sur ce qu'il pourrait atteindre d'autre. Or, dans ces moments-là, on peut difficilement se projeter plus loin que ça. Que cette émotion-là, que ce ressenti-là, on a envie de penser juste à ça, le mmh. truc qui est là, à portée de main, qui est tout beau, tout neuf, mais finalement, on n'a pas le réflexe de se dire « et après ?» Comment ça va se passer Exactement. Dans le temps Et pourtant, j'ai le sentiment que dans les premiers instants, on peut décrypter ça. Si on se met à essayer de le décrypter, on peut décrypter la personnalité de l'autre. On peut voir comment il est finalement, quelle petite manière il a déjà, comment il aborde telle ou telle situation. Parce que on sait que dans le nouveau, il y a toujours, il y a toujours ce vent nouveau qui souffle, cette impression que c'est pas pareil et que c'est mieux. Pourquoi c'est mieux ? Parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on vit la même chose et que tout à coup, c'est juste nouveau.
Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, si on a fini par épouser la personne qu'on a épousée, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose. Parce que ce n'est pas non plus une décision qu'on prend à la légère. Donc, au lieu d'aller chercher quelque chose d'autre, ailleurs, je pense qu'il faut déjà essayer de réparer un petit peu, voir ce qui se passe avec la situation actuelle. Et il peut arriver que ce soit tout simplement irréparable, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Mais dans ces cas-là, trouver d'autres solutions, oui, certes, mais ne pas tout de suite aller chercher autre chose.
On peut s'être trompé, Perrine. Je ne dis pas que s'être trompé, on peut retrouver quelqu'un 15 ans après, parce que lorsqu'on l'avait croisé, lorsqu'on avait essayé de construire quelque chose là, à cette époque-là, on était encore trop jeune. Pas assez mature et des histoires de personnes qui se recroisent 15 ans, 20 ans, 30 ans après et qui quittent tout pour à nouveau recommencer quelque chose mais qui va marcher là, ça existe aussi. Or, vous vous êtes aperçu que lui ne tenait pas la route finalement.
Il ne tenait pas la route, mais surtout 15 ans après, Olivier, lui, il avait gagné zéro en maturité. C'est ça aussi. Il n'avait pas fait ce chemin-là alors que justement, moi, j'avais accompli tant de choses en 15 ans. Lui, finalement, c'est ça, comme vous l'avez dit, il est resté chez papa-maman. Donc, vraiment, il est resté 15 ans en arrière. ça a pas.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur ses conquêtes.
Voilà. Voilà, et c'est intéressant parce que quand on regarde aussi, bon après je ne sais pas à quel point ça peut être révélateur ou pas, mais il était aussi dans, il venait de, quand je l'ai connu là, 15 ans après, il venait de quitter un travail dans lequel il a travaillé ces 14 ou 15 dernières années. Donc c'est ça, il était vraiment resté à la case départ, il n'avait pas bougé, l'employeur était le même, vivait chez papa-maman, mangeait les mêmes choses, les mêmes sorties, les mêmes occupations, ouais. le même schéma, c'est-à-dire quand il rencontre une petite copine, bah, je travaille la semaine, je ne peux pas te voir la semaine, donc on peut se voir que le samedi, donc il y a des cases, il y a des trucs prédéfinis comme ça, et il fallait que ce soit à la fille de s'adapter, de rentrer dans ces cases-là, sinon ça ne marche pas. C'est ça, un autre détail pour vous dire, à un moment, il m'a même donné un emploi du temps. Donc, je n'étais pas censée le contacter en dehors de ces cases horaires-là.
Ah bon ?
Voilà. Oui.
Et pourquoi c'était ça ? Arrivé à. Et pourquoi à ça ? Puisqu'il ne travaillait pas ?
Parce qu'il a des occupations. Bah, il a des occupations. Il est accro. Il y a certains sports qu'il suit, des sports nord-américains d'ailleurs. Donc, il suit avec des décalages horaires. D'ailleurs, pour lui, c'était aussi ça. C'était tellement fun de pouvoir parler à quelqu'un qui était dans le même fuseau horaire que ses loisirs chéris. Donc. Mm-hmm. Il y avait aussi une part d'excitation par rapport à ça. Mais voilà, donc je ne pouvais que lui parler dans certaines cases horaires. Donc,
est-ce que cela vous a effleuré l'esprit qu'il ait pu avoir plusieurs relations en même temps ?
Alors, non, parce qu'on en a parlé et il m'a dit clairement que non. Enfin, bon, après, sa parole vaut ce qu'elle vaut, vous me direz, mais non, je ne crois pas. Je pense que autant il est capable de passer d'une histoire à l'autre, ça c'est certain. Mais je pense qu'il n'a pas l'énergie, surtout l'énergie d'entretenir deux relations à la fois. Vraiment pas.
D'accord.
Et donc, c'est là que j'ai commencé à remettre les pièces du puzzle ensemble. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais il y a un truc là-dessous, c'est pathologique. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je suis plutôt quelqu'un qui a tendance, on va dire, à intellectualiser un petit peu, à suranalyser les choses. Mais là, je pense que pour le coup, ça m'a vraiment servi. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé des tas de sites, de bouquins sur la thématique du pervers narcissique. J'ai fait un test. Il y a un test connu sur Internet qui, je crois que le titre, c'est « Êtes-vous sous l'influence d'un pervers narcissique ?» Donc, apparemment, il y a 30 critères et cette personne-là correspond à 15 des 30 critères, à la moitié. Et donc, il y a forcément des choses que je ne retrouve pas dans le schéma classique du pervers narcissique. Mais j'ai lu d'autre part qu'il y a quand même un large spectre. Donc, voilà, une personne peut avoir aussi des tendances de pervers narcissique sans nécessairement exprimer ça dans son intégralité. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé des bouquins, je commence vraiment à m'éduquer sur la question. J'ai trouvé des sources aussi américaines qui m'aident beaucoup comprendre les sociopathes, ce qu'on appelle les sociopathes. Donc, apparemment, ce n'est pas un terme de diagnostic médical en tant que tel, mais ça regroupe tout un tas d'attitudes, de comportements que des personnes peuvent avoir et qui sont qualifiées dans ce grand terme, ce mot valise de sociopathe. J'ai retrouvé des tas de choses dans ces bouquins-là qui correspondent à ces attitudes, à ces propos, à ces comportements. Et c'est là que j'ai réalisé de plus en plus que j'étais vraiment sous une influence. Il y a un truc, il y a un côté de moi, je marchais dans quelque chose qui était... irréel, vraiment, c'est le mot.
Périne, pardonnez-moi, mais il a... Oui. Si il est l'homme que vous décrivez, qui note tout, souffle le chaud, le froid, et qui a une petite... quelques traits de personnalité, en tout cas des pervers narcissiques, il a sans doute, parce que c'est souvent le talent développé... beaucoup plus développé chez ces hommes que chez d'autres, à percevoir le fléchissement de la femme qui est en face de lui et qui est en train de tomber amoureuse. Oui. Et il s'immisce vraiment dans les failles. Et vous avez dû en plus lui faire part.
Il a vraiment projeté ça.
Oui, et puis vous avez dû lui faire part de de cette fatigue de votre couple, de ce ras-le-bol que vous viviez, des questions que vous vous posez,
bien
vous
sûr,
lui en avez parlé
sûr,
obligatoirement. Donc après,
oui,
s'il est intelligent, il n'a fait que vous raconter ce que vous aviez envie d'entendre, vous voyez ? Et donc là, c'est parti.
Oui.
À partir de ce moment-là, c'est sa technique, c'est sa stratégie, c'est sa manière de faire. Et
bah
en
là,
tout cas,
c'était parti de toute façon.
Vous me voyez soulagé vraiment de vous entendre parce que je vous avais dit, je me souviens, d'ailleurs, ça m'avait valu quelques SMS me traitant de quelques noms d'oiseaux sur le 739-21 d'Europe, parce que je vous avais dit, il faut que vous alliez au bout.
Oui.
Vous vous rappelez? Et je pense que c'est une très bonne chose que vous soyez allé au bout, parce que je vous avais dit que vous ne faisiez rien à votre mari si tout ça restait bien évidemment très discret, et que ça, vous alliez le vivre pour vous, que cette étape-là, c'était une étape de votre vie de femme, une étape importante, car vous alliez réaliser ça pour vous, en fait. Comme tout un tas de femmes et d'hommes aussi, hein, le font à un moment, en ayant toujours ce réflexe de développer une culpabilité par rapport à l'autre, comme si ils étaient en train de faire quelque chose à l'autre. Or, dans ces cas-là, vous ne faites rien à l'autre. Dans ces cas-là, vous vivez quelque chose qui est à vous, qui est très personnel, et qui est de l'ordre de votre construction, de la continuation de votre construction, parce que ne pas le faire, ne pas y aller, va vous frustrer, et de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Car cette situation va se représenter quelques temps après, quelques mois après ou quelques années après. Généralement, c'est quelques mois. Parce que à partir du moment où on a une frustration dans son couple qui ne s'arrange pas, s'il y a tout à coup comme ça quelque chose qui passe devant nos yeux, et « Oh là, tiens, qu'est-ce que... » Une espèce de bulle là, dans laquelle on peut plonger. Et c'était très bien. C'est très bien que vous soyez allé au bout sans faire de mal autour de vous, sans... Parce que c'est le cas, en fait. Finalement, personne n'a été au courant de tout ça.
Pas exactement. Enfin, au début, oui. Mais justement, c'est que vous parliez de culpabilité à l'instant. Voilà, il y a un moment où j'arrivais plus à retenir tout ça.
Oui.
Et surtout, le fait que cette personne, après m'avoir séduite, en fait, tout simplement, là, il commençait vraiment à devenir beaucoup plus négatif, etc., et à me reprocher des choses. Là, j'arrivais plus à tenir et mes nerfs ont lâché et j'ai tout avoué à mon mari.
D'accord.
Dans les grandes lignes.
D'accord.
Dans les grandes lignes, j'ai quand même fait attention à le préserver aussi parce que il a quand même sa dignité et puis voilà, le fait d'entendre que sa femme l'a trompé, enfin c'est juste atroce à entendre.
Bien sûr.
Et surtout, enfin s'il se l'imaginait pas et si lui-même voilà ne s'est jamais laissé tenter, c'est très dur à entendre. Donc je lui ai raconté ça, on a passé une après-midi et une soirée entière, moi de toute façon à pleurer toutes les larmes de mon corps, ça c'était la meilleure façon d'évacuer. Et en fait, on a ce qui est formidable, Olivier, c'est pour ça que je vous disais que vraiment j'ai été trop bête de ne pas voir les qualités chez mon mari, c'est que Il s'est pas fâché plus que ça. Il ne m'a pas insulté. Il ne m'a pas frappé. Vraiment, il a été très très digne dans son comportement. Il m'a posé une question simple. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux me quitter? Est-ce que tu veux donner une chance à cette autre histoire-là? Ou est-ce que tu veux qu'on s'assoie ensemble, qu'on en parle et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire pour sauver notre couple? Et j'ai trouvé ça juste formidable. Voilà, je pense que beaucoup d'autres hommes m'auraient juste dit, va-t'en, enfin, voilà, si tu es femme adultère, je ne sais pas pourquoi, enfin, t'es infidèle.
Oui, ça aurait pu très mal tourner. Ça aurait pu très mal tourner.
Ça aurait pu très, très mal tourner.
Bien sûr.
Et donc, voilà. Alors, j'ai choisi la deuxième option, tout simplement. Donc, on en parle, on en a parlé énormément,
Oui.
Et lui-même a fait des études de psychologie, donc ça aide. Il ne travaille pas comme psychologue à l'heure actuelle, mais il a de bonnes bases.
De bonnes bases,
oui.
Mmh.
Oui, donc ça m'a aidé aussi à éclaircir tout ça.
Il sait, votre homme, que ce type de choses peut arriver. Il sait aussi, sans doute,
il sait que ça peut arriver.
À travers ce qui vous est arrivé, peut-être avez-vous... électrifié votre couple. Hein, vous lui avez peut-être mis un coup de... Alors, bien évidemment, sans doute assez blessant pour lui. Hein, ça, on ne peut pas le nier. Mais peut-être aussi qu'au final, cela va redonner un nouveau souffle à votre couple. Est-ce que vous
avez
cette impression ?
Oui, complètement. Et en fait, donc là, au moment où je vous parle, c'est une semaine après lui avoir avoué. C'est pour ça que j'avais besoin d'une semaine.
Tout frais,
pour,
tout frais.
Voilà, c'est tout frais. J'avais besoin de passer une bonne semaine pour laisser retomber la poussière et vraiment vous appeler avec des nouvelles plus positives qu'autre chose. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de travailler, améliorer certaines choses dans notre couple. Vous m'aviez posé la question de donner des comment je dirais ça comme des astuces ou des choses. Qu'est-ce qui m'a mis sur cette piste-là et comment mieux comprendre cette situation-là dans une vie de femme mariée. J'ai découvert un bouquin qui est absolument extraordinaire. C'est un conseiller conjugal américain et le bouquin est traduit en français, donc il est disponible en France. C'est Gary Chapman et son bouquin s'appelle « Les cinq langages de l'amour ».
Oui.
Et justement, il nous explique... En fait, on se doute de ça, mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, notre vie de couple, on ne théorise pas nécessairement là-dessus, on ne réfléchit pas là-dessus. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a tous notre façon, notre langage de l'amour.
Oui, et puis on
ne
théorise pas, vous avez
raison. Et même s'il y a le gros coup de foudre au début, voilà. On a le gros coup de foudre au début, mais justement, ça nous permet de tenir à un moment, comme une voiture neuve, le moteur, tout est nouveau, donc tout ça tient. Et puis, il y a un moment, ça ne marche plus très, très bien et on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas quoi faire.
Et c'est, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que dans n'importe quelle histoire, vous venez de le dire, on s'occupe de tout ce qu'on ressent sur le moment. Mais après, il y a la deuxième phase où il faut se projeter et surtout faire attention au temps qui passe. Mais on va continuer d'évoquer cette notion. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info sur Europe. Mm-hmm. Et puis on va avoir une discussion très intéressante là-dessus. À tout de suite, Perrine.
À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien chez vous sur Europe 1, et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et comme vous le savez, si vous nous appelez ce soir, et que nous n'arrivons pas à parler ce soir, eh bien, nous vous programmons pour demain. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes avec Perrine, qui nous appelle du Canada et qui nous évoque ses retrouvailles avec un premier amour et cette prise de conscience pour son couple. Que cette parenthèse, elle peut faire du bien parce qu'il n'y a qu'une semaine de passé, hein, Perrine, pour l'instant. Comme vous l'évaluez de manière assez positive, hein, constructive en tout cas cette semaine.
Oui, je pense. En fait, c'est vrai, on a l'impression qu'une semaine, ce n'est pas énorme, mais déjà, j'ai l'impression d'avoir fait un bout de chemin. J'ai l'impression qu'en fait, plusieurs semaines se sont écoulées. C'est assez étrange, mais j'ai emmagasiné tellement de connaissances, Olivier, j'ai réussi vraiment à analyser la situation et à prendre du recul. Ça a l'air rapide, mais vraiment, je vous assure que ça a été une semaine intense, riche d'apprentissage.
Je ne doute pas une seule seconde que cela ait été intense pour vous, bien évidemment, pour votre mari. Est-ce que vous évaluez bien les choses ? Est-ce que ça a été aussi intense pour lui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il avance ? Est-ce qu'il vous parle dès qu'il a envie de vous parler ? Est-ce que vous êtes dans une bonne communication tous les deux ?
Ouais. Exactement. Oui, vraiment. Je pense que c'est... Oui, il y a eu un gros déclic, en fait, de son côté. Donc, On communique constamment, tout le temps. On est toujours en télétravail, mais voilà, avant, on était deux sortes de colocataires ou collègues qui partageaient un espace de vie et de travail. Là, sincèrement, il y a des échanges et on communique et j'ai trouvé des astuces, des choses. Au début, c'est sûr que ça a l'air d'être un script écrit d'avance, en fait, lui poser quelques questions, comment s'est passée ta journée, etc. Donc, c'est a l'air un peu préparé, mais justement, ces choses-là amènent d'autres paroles et d'autres actions qui sont beaucoup plus naturelles et ça restaure un vrai dialogue entre nous.
Oui. Est-ce que vous avez l'impression,
c'est un peu ce qui s'est passé.
Surtout, ce qui est important dans ce qui vous est arrivé, c'est que ce couple ronronnait, c'était... votre point de vue, c'était votre ressenti. Était-ce son ressenti à lui ? Est-ce qu'il avait perçu cela ? Ou finalement, est-ce qu'il s'était installé dans tout ça ? Et est-ce qu'il conçoit que tout ça, il l'avait laissé un peu couler comme ça ? Il laissait le temps faire les choses ? Est-ce qu'il conçoit, il admet que qu'il ne faisait plus grand chose pour que entre vous ça ne soit pas tout le temps la même chose.
Alors oui, la réponse est oui à tout ça.
Ça c'est très bien.
Il s'en est rendu compte. Il savait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, mais c'était pas au point d'imaginer que voilà que je pouvais aller voir ailleurs. Il a réalisé lui aussi que, et en fait, il me l'a dit, mais en fait, on a essayé de reconstituer ensemble, en fait, l'échelle chronologique, se dire, mais à partir de quand on a commencé à s'enliser comme ça. Oui. Et moi, je pensais que c'était la pandémie. Je pensais vraiment que c'était la pandémie. Je voyais que ça, et puis tout le monde parle de ça. Donc, voilà, j'étais obnubilée par ça. Mais lui a été capable de faire remonter ça encore oui. plus tôt. Mm-hmm. En fait, on a eu notre deuxième bébé, mon fils qui a maintenant 3 ans et demi.
Oui.
Et mon fils est né avec une grave malformation cardiaque.
Oui.
Génétiquement transmise, en fait. Mon mari a eu exactement la même chose, a été opéré pour cette raison-là aussi quand il était bébé.
Mm-hmm.
Donc, même si ça a été diagnostiqué avant la naissance, c'est vraiment quelque chose... moi, ça m'a donné un énorme coup de stress.
Ben oui.
Voilà. Mm-hmm. L'avant, le pendant et l'après, c'était vraiment très, très stressant. On est dans un contexte d'exil, d'émigration, où en fait, on n'a ni l'un ni l'autre, notre famille proche. Ma famille est en France, sa famille est aux États-Unis. Sa famille est venue, ils sont tous médecins, ils ont voulu nous aider, nous soutenir moralement. Mais en fait, c'est vraiment bizarre, ça a été juste l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai cherché un soutien moral du côté de ma belle-mère parce que ma mère n'était pas là. Et c'est vraiment bizarre. Elle a eu des réactions impensables, des réactions vraiment négatives. J'ai pas compris ce qui s'était passé et j'étais encore plus frustrée de ça. J'arrivais pas à chercher de réconfort chez elle. J'arrivais pas à chercher un remplacement de mère chez elle. Donc il y a eu tout un truc comme ça qui s'est passé. Et c'est à partir de là aussi. Donc on est devenus des parents. On est devenus des parents qui gèrent un enfant qui a eu un bébé qui a eu une opération monumentale à 30 heures de vie. Mon fils a été opéré à 30 heures de vie.
Oui.
Il a eu une énorme cicatrice sur la poitrine. Donc c'était aussi visualiser ça. En fait, à chaque fois que je lui donnais le bain, je voyais ça. Moi, ça me rendait dingue. Enfin, très émotive en tout cas. Et fort heureusement, en fait, tous ces résultats médicaux, ces tests médicaux étaient toujours assez bons. Donc, en réalité, voilà, il y a un moment où ça s'est dissipé un petit peu les inquiétudes et aujourd'hui, tout va bien. Il est pratiquement normal. Il y a certains petits trucs qui changent d'un enfant 100%, qui n'a pas de malformation, mais il a une vie relativement normale.
Mais vous êtes épuisé.
Oui.
Vous êtes comme...
Complètement.
Déjà, quand un enfant naît, c'est naturel que l'on se transforme en parent et qu'on en oublie l'aspect amoureux hein, du couple.
Mm-hmm.
Souvent, l'arrivée d'un enfant éreinte le...
Mm-hmm.
et met vraiment à l'épreuve le couple. Là, mm-hmm. Il est certain qu'avec cette malformation cardiaque, vous avez été vraiment tous les deux mis à l'épreuve. Et c'est lui qui l'a remarqué, ça, qui en a parlé ?
Oui, oui, oui. Comme je vous ai dit, moi, je m'arrêtais vraiment à la pandémie alors qu'il m'a dit c'est pas du tout ça. C'est vraiment...
C'est là que ça a commencé.
C'est cette naissance qui nous a bouleversés, ouais.
Oui. Oui,
mmh. Oui, oui.
Et souvent, souvent ouais. Ce sont des événements... Alors, la naissance d'un enfant, comme je vous le dis, est un événement majeur, hein, qui met à l'épreuve le couple. Mais souvent, on se transforme en parent et on ne finit plus qu'être que cela, parent. Et là, le couple en prend vraiment un coup. Et c'est là où il faut être très, très alerte, très attentif sur son couple.
Vraiment. C'est dans la vie quotidienne, un enfant comme ça aussi, c'est un enfant qu'on couvre naturellement encore plus qu'un autre. Donc, ça, c'est un truc que les pédiatres disent toujours aux jeunes parents. Faites attention à ne pas dormir avec votre bébé, dormir avec votre enfant. Essayez rapidement de lui donner un sens d'autonomie, etc. Et bah, moi, c'était tout le contraire, en fait. Je l'ai couvé. Et puis, bah, s'il pleurait dans la nuit, j'allais chercher le prendre avec moi. Donc, forcément, il dormait entre mon mari et moi. Bah, là, voilà, on était que des parents pendant la journée. On était aussi que des parents pendant la nuit. Donc, j'ai eu, certainement, j'en suis consciente après coup, j'ai eu des actions et des attitudes qui n'ont vraiment pas aidé à ça. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Mais waouh, c'est fou de se dire que, ben en fait, il y a certaines erreurs, je pense, dans la vie, il faut les faire, il faut les commettre pour se rendre compte que ce sont des erreurs.
Mais bien sûr.
C'est dommage, hein, on aimerait vraiment que tout se passe bien, on aimerait vraiment avoir ce mariage parfait, tout roule.
Mais ça, c'est dans la...
Quand je vois des couples établis, je me dis, mais comment ils font ? Ils ont l'air amoureux comme ça, après 30, 40 ans de vie commune, 55 ans dans le cas de mes parents. Et je comprenais pas.
Mais peut-être que ces couples-là dont vous parlez sont eux-mêmes passés par des moments critiques, des moments... où ils se sont peut-être séparés, où ils ont failli se séparer. Peut-être sont-ils passés, comme vous passez en ce moment, une aventure comme celle que vous avez vécue. Et cela fait partie des épreuves qu'un couple traverse. Et si on a l'intelligence de bien décrypter ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, et surtout, après, être dans... Justement, dans l'interprétation à deux de ce qui s'est passé et dans la quête de sens, c'est vraiment génial parce que je pense que votre couple va vraiment en ressortir très fort, avec une confiance renforcée. Le fait que vous ayez dit, le fait que vous l'ayez dit à votre mari, quand je vous disais tout à l'heure, vous allez vivre quelque chose qui est à vous. Et il faut faire attention. Mmh. Dans notre première discussion, je vous avais dit de faire attention à ne pas faire de mal à l'autre. Vous vous rappelez ? Là, vous avez pris la décision, et une décision de femme et d'épouse, de le révéler à votre mari, sûrement parce que ça s'inscrivait totalement dans ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez éprouvé le besoin de le lui dire parce que tout cela avait un sens pour vous qui n'allait pas aller à son extrême, à sa fin, si vous ne lui révéliez pas ça. En fait, il fallait que ce que vous aviez fait prenne du sens pour votre couple. Instinctivement, en fait, je pense que vous avez révélé ça à votre époux parce que vous avez ressenti, et c'est sans doute l'instinct féminin qui vous a fait parler, vous avez sans doute ressenti que ça allait être... une tempête, hein, mais que si vous sortiez indemne de cette tempête, votre couple allait vraiment en bénéficier.
Je vous avoue, honnêtement, j'ai eu peur de sa réaction.
Bah bien sûr, ça, c'est normal, c'est humain, c'est normal.
J'ai eu très très peur et je me rejoue la scène encore et je sais qu'au tout début, je lui ai dit « S'il te plaît, ne crie pas, ne m'insulte pas, ne me frappe pas ». J'ai vraiment commencé par ça parce que je ne savais pas du tout en fait comment ça pouvait réagir. J'avais aucune idée. Il a été c'est sûr qu'il était, on va dire, en colère ou en tout cas très, très blessé. Mmh. Mais il n'a pas eu de réaction explosive. Il n'a pas verbalisé ça, en tout cas pas par des mots blessants. Mmh.
Finalement,
et
vous
c'est
avez...
C'est là qu'il m'a demandé, alors qu'est-ce que tu veux faire? Mmh. Oui.
Vous avez quand même un homme assez formidable à côté de vous.
Hein. Mais complètement, Olivier.
Ben oui, ben
complètement.
Oui.
Et, mmh. Mais c'est idiot, hein. On se met des œillères parfois. Hein. On va regarder ailleurs.
Non,
et,
je pense encore une fois...
Je me sens vraiment nulle.
Mais oui, mais non, je pense que ce que vous avez vécu... Vous savez, c'est comme provoquer quelque chose, une situation. Bon, vous l'avez provoqué de cette manière. D'autres l'auraient provoqué d'une autre manière. Mais il faut vraiment voir cela comme un élément qui va contribuer à votre construction et à votre évolution, à tous les deux. Et je pense que le fait que votre mari l'ait pris comme ça, déjà, en... Mmh. En restant calme, bon, en étant blessé. S'il n'avait pas été blessé, vous auriez pu douter de ses sentiments vis-à-vis de vous. Le fait qu'il soit blessé prouve que, bon, même s'il y a de l'orgueil sans doute dans tout ça, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui se dégage de votre histoire. Et donc, du coup, maintenant que vous avez dit les choses, il faut absolument rester sur cette... cette teneur-là et se dire les choses. Mmh. Je pense que c'est essentiel que vous considériez l'un comme l'autre que ce qui est le plus confortable dans un couple, c'est de se dire les choses et de ne pas les éviter, de les contourner. Il ne faut pas avoir peur de l'autre.
Bah,
et ça n'est pas facile.
Oui. Je sais qu'en fait, je le savais déjà, mais je ne sais pas, j'avais... oublier ce côté-là, mais je le sais maintenant qu'il est capable d'entendre beaucoup de choses. Mmh. On n'a pas de tabou, on peut vraiment communiquer. Et ça, c'est formidable. Et je pense que oui, le fait qu'il ait sans doute fait des études de psychologie avant, ça lui donne justement cette habileté à discerner. Et en fait, il me l'a dit tout de suite. Il me dit, t'as mis 10 ans à me tromper. Donc, ça prouve qu'avant ça, il y avait vraiment un truc... Que c'était pas, on va dire, un trait de caractère. Que c'était pas un truc que
j'aurais fait
assez rapidement ou naturellement dans la relation. Mmh. On entend des histoires sordides de gens qui se marient et qui se trompent quasi instantanément. Donc, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que même dans une situation aussi grave, on va dire, il est quand même capable de faire ressortir le positif. Il voit des choses que j'ai pas nécessairement... je me suis pas nécessairement arrêtée là-dessus.
C'est une véritable... C'est un beau cadeau et la preuve vraiment d'une intelligence et d'une grande maturité. En tout cas, voilà, il est à hauteur des sentiments que... vous lui portez et ce pourquoi vous l'avez choisi il y a 10 ans. Et je pense que tout ça va rebooster votre couple et sans doute faire évoluer beaucoup de choses dans l'échange que vous aurez maintenant, dans l'attention que vous porterez à l'autre. Je pense qu'une épreuve comme celle-là, parce qu'elle est difficile à digérer, mais elle est salvatrice. Elle est salvatrice. Ne pas en douter.
Olivier, je voudrais juste aborder un dernier aspect avec vous parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait. Mon mari est au courant, on en a discuté avant, mais j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Par rapport à cet ex-là, j'ai rompu toute communication avec. Donc, ça fait une semaine depuis que je l'ai dit à mon mari que je ne communique plus avec cette personne-là et je n'ai pas l'intention de recommuniquer non plus. Mais... j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour lui. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai quand même cet instinct humain, j'ai quand même envie d'essayer de l'aider de sortir de sa misère, mais pas prendre en charge ça par moi-même, pas du tout. Je ne suis pas thérapeute,
ni rien. Ce n'est pas votre rôle.
Ce n'est pas mon rôle, mais je crois qu'aussi une part pour moi de guérir ma blessure d'amour propre à moi, ma blessure émotionnelle à moi, c'est que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un de proche, à cette personne-là, à cet ex-là. Et j'ai écrit à sa sœur.
Oui.
J'ai écrit un message à sa sœur, qui est dans le domaine de la santé. Et je lui ai bien précisé, c'est pas une recherche de vengeance, c'est pas un message malveillant, j'ai pas envie de lui causer du tort ni rien, mais en fait je veux juste expliquer à sa sœur que ce garçon-là, il a, sous couvert de soi-disant gentillesse et de charme, etc., il a vraiment des attitudes et des propos qui portent à confusion chez les femmes. Et j'ai envie de dire des tendances manipulatrices, mais je ne l'ai pas exprimé comme ça dans mon message. Mais je lui ai demandé à cette femme si elle accepterait de me parler au téléphone. Je n'ai pas encore de réponse parce que c'est encore frais, mais est-ce que vous pensez que je suis allée trop loin? Parce que d'un côté, j'avais vraiment envie de faire ça, et de l'autre côté, j'ai peur en fait. Encore une fois, j'ai peur de la réaction de cette personne. Elle va peut-être me dire, mais vous êtes complètement folle, je ne vous connais pas. Voilà, laissez mon frère tranquille, elle pourrait très bien dire ça.
Tout dépend à qui vous vous adressez. Je ne peux pas vous dire quelle réaction elle va avoir, parce qu'elle peut avoir une réaction comme celle que vous venez de citer, ou bien une réaction saine par rapport à quelqu'un qui l'alerte sur... Je ne sais pas du tout. Moi, j'étais en train de me dire que si vous vouliez lui faire du bien, c'est de lui dire merci. De lui dire merci et de lui expliquer tout ce qu'il a pu vous montrer. Mais ça, peut-être pas maintenant, parce que je pense qu'il faut que vous vous concentriez sur votre histoire, et je pense que votre mari n'apprécierait pas pour le coup que maintenant vous ayez envie de faire quelque chose comme ça pour lui. J'entends que vous avez envie de...
Moi, j'ai pas envie de communiquer avec lui.
D'accord.
J'ai pas envie de communiquer avec lui parce que même si j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, ma petite guérison à moi, je pense que je suis quand même encore assez fragile. Et cette histoire a révélé plein de choses, oui, sur mon couple aussi, mais sur ma personnalité. Je me rends compte que je suis un petit peu trop sensible, un peu trop gentille. J'ai cette tendance à accorder le bénéfice du doute, même jusque très très loin dans un échange. J'arrive pas à détecter tout de suite le mal ou les intentions un peu plus malveillantes chez les gens.
C'est compliqué. C'est compliqué en si peu de temps. Moi, je pense que sur concernant cet homme, il y a quand même un travail qu'il a à faire sur lui. Et je ne pense pas que ce soit votre rôle de l'aider, déjà, dans un premier temps. Je pense en plus qu'il faut vous concentrer sur votre homme et vos enfants. Je pense encore une fois à votre homme, hein, qui n'apprécierait pas vraiment que vous, quelque part, ce sentiment de vouloir l'aider, parce que cet homme, en fait, il ne cédera que le jour où il décidera de faire un travail sur lui. Le fait de prendre ces petites notes sur chacune de ses conquêtes, d'entretenir ces choses-là, de vivre encore chez ses parents, de ne pas sortir d'une certaine routine, fait de lui quelqu'un d'assez immature. Et il y a quand même un travail assez conséquent pour lui s'il veut avancer. Mais ça se déclenchera à travers sa volonté à lui, s'il se rend compte, parce que finalement, même si vous lui expliquez tout ce que vous pensez de lui et ce que vous ressentez, je ne suis pas certain qu'il le prendra dans le bon sens. Parce que visiblement, il a l'air très imbu de sa personne, cet homme. Donc,
Alors, j'avais déjà essayé, mais ça ne marche pas, effectivement. Il n'est pas du tout réceptif à ça. Et j'ai vraiment aucune intention de communiquer avec lui. Encore moins envie de l'accompagner, parce que vous l'avez si bien dit, c'est pas mon rôle. Franchement, j'ai même pas l'énergie pour ça, après ce que j'ai vécu. Mais je voulais juste alerter sa famille, parce que Olivier, j'ai l'impression que même si moi ça m'a atteint durement, mais que j'arrive à m'en relever aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il a déjà causé du tort à d'autres jeunes femmes. Et ça va continuer, c'est ça le problème,
ouais, écoutez,
parce que son modus operandi reste le même.
Ouais, mais prenez le courrier que vous avez envoyé à sa sœur comme une bouteille que vous avez lancée à la mer.
Et, voilà, exactement.
Et maintenant, ne vous préoccupez plus de tout ça. N'attendez pas de réponse particulière de sa part. Voilà, parce que ça n'a
d'accord.
au final, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous voyez, qu'elle vous réponde ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est vous, là, dans cette histoire. Et si sa sœur est quelqu'un qui saura déchiffrer ce que vous lui avez envoyé, eh bien, elle fera le nécessaire vis-à-vis d'un frère avec qui, vous ne savez pas, avec qui elle entretient des relations peut-être compliquées aussi, hein, parce qu'il il est quand même particulier, cet homme. Donc, vous ignorez beaucoup de choses de lui, hein, Perrine, aujourd'hui.
Bien
donc,
sûr.
Le chemin qu'il y aurait à faire pour l'aider me paraît assez sinueux et assez compliqué. Et pas du tout à l'ordre du jour pour vous.
Non, absolument pas. Absolument pas, et j'ai pas l'intention que ça le devienne.
Très bien. Mais écoutez, j'étais ravi d'échanger avec vous. Portez-vous bien. N'hésitez pas, d'ici quelques mois, à me rappeler pour me donner des nouvelles de l'évolution de votre couple, de votre histoire, et à savoir quel bénéfice vous avez tiré de tout ça, tous les deux, et même tous les quatre, hein, parce que c'est souvent la famille qui en fait les bénéfices. Donc, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord ?
Avec plaisir. Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie. Je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.